À l'air libre s'installe cet été sur le Vieux-Port de Marseille, au Théâtre de la Criée, pour une série spéciale FID, Festival International du Documentaire, FID Marseille. Une série d'émissions avec des membres du jury, des réalisateurs invités, autour de cette thématique littéraire, ou plutôt de cette articulation image, écrit, cinéma, livre, mot, écran. Notre invitée aujourd'hui, Marianne Alphand. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Vous êtes agrégée de philosophie, journaliste, enfin vous avez en tout cas été journaliste, en particulier journaliste littéraire à Libération, pendant une dizaine d'années. Vous avez enseigné la philosophie également. Vous dirigez toujours le programme des revues parlées du centre Georges Pompidou depuis 1993.
Voilà, oui.
Alors là, c'est le son et les lettres. Vous avez été commissaire d'exposition, plusieurs expositions, Roland Barthes
et
Samuel Beckett récemment au centre Pompidou en 2007. Vous avez publié parcimonieusement plusieurs livres, les derniers chez POL. Petite nuit, une sorte d'autobiographie à travers des moments de lecture d'auteurs marquants pour vous. L'histoire enterrée qui datait de 1983. D'autres livres chez Gallimard. Une série de livres sur Monet ou autour de Monet chez Azan. Pascal, j'imagine, c'est le côté philosophie, littérature. Chercher de littérature. Pascal Tombeau pour un ordre, c'était en 1998. Je vous regarde en même temps pour voir.
Oui,
si
mais je vois que vous êtes très bien renseigné.
Et puis quelques textes pour des spectacles pour le théâtre, mais aussi pour des spectacles chorégraphiques,
oui.
Pour la danse.
Oui.
Ça, c'est intéressant d'écrire pour la danse, parce que je me demande quand même comment ça marche. Vous avez également participé à la traduction de cette Bible chez Bayard qui faisait intervenir des écrivains et des traducteurs.
Des hébraïstes.
Hébraïstes,
oui.
Voilà, spécialistes pour essayer de faire cette conjugaison peut-être entre traductions professionnelles et des traductions littéraires. Et une série d'entretiens et d'essais sur Étive de la Bottone. Et puis, ce qui m'intéresse, peut-être qu'on va commencer par ça. Avec Pierre Guyotat, des entretiens qui sont issus, si j'ai bien compris, c'est dans ce sens-là que ça s'est passé, d'une série documentaire, d'abord, d'une série
d'un tournage, films. Oui, d'un tournage.
Voilà.
Oui.
Alors peut-être qu'on pourrait commencer par ça, puisque Pierre Guyotat est venu plusieurs fois à Marseille, au CIPM en particulier, et vous demandez comment vous avez abordé cette série d'entretiens pour filmer un écrivain.
Oui, alors je ne faisais pas le film, hein, bien entendu, c'était le cinéaste, le réalisateur était Jacques Kébadian. En fait, le projet est parti de Léo Cher, hein, l'éditeur Léo Cher, qui maintenant est un éditeur, si je puis dire, connu, mais à l'époque, ces entretiens ont eu lieu en 99, je pense, 99 ou 2000, il débutait. Et il avait envie de commencer par Pierre Guyotat. Et il pensait qu'il fallait faire un film sur Pierre Guyotat. Donc la question se pose de savoir qui allait faire l'interlocuteur. Pierre Guyotat avait envie de le faire avec une femme. Donc bon, on en a parlé tous les deux et j'ai dit d'accord, en sachant que c'était quand même une aventure. Et ça a été une aventure. J'ai un souvenir très précis du... Léo Cher nous avait tous emmenés à Deauville, la petite équipe.
Oui.
On était logés à l'hôtel, très bien d'ailleurs, très luxueusement. Et puis, on commence dans un jardin. On parle, je fais parler Pierre Guyotat pendant toute une après-midi. Et le soir à l'hôtel, Léo Cher me dit... Alors là, c'est pas du tout ce que je croyais. Il faut continuer. Je lui dis, bon, ce sera pas un film de, je sais pas, 35 minutes, 52 minutes qu'on peut montrer dans une salle. Il dit, ça n'a pas d'importance, on y va. Et on a tourné des heures et des heures. On a tourné, je crois, 5 jours. Après quoi, en rentrant à Paris, Pierre Guyotat me dit, je crois qu'on a pas parlé de tout. J'ai dit non, on n'a pas parlé de tout.
Ça déborde.
Voilà. On dit peut-être on peut continuer, mais on n'avait plus le réalisateur. Enfin, il est venu de temps à autre, mais pendant un mois à peu près, j'allais le soir chez lui. On avait un petit magnétophone, on continuait à parler, et il y avait quelqu'un qui décryptait à mesure. Bon, tout ça en vue de faire un livre, parce que quand même, au bout d'un moment, Léo Cher s'est dit, là, il faut faire un livre d'entretien. Donc en fait, le livre est paru, après avoir été bien sûr très retravaillé par Pierre Guyotat, qui ne laisse pas passer une phrase sans la... c'est d'un professionnalisme et d'un niveau d'exigence total. Et donc le film existe sous forme de, je dirais presque de monstre. Je crois que Jean-Pierre Rehm aurait souhaité le montrer ici. C'était compliqué. Bon, ça s'est pas fait, mais ça se fera, je pense, une autre année.
Il en parle régulièrement, en tout
oui,
cas.
Oui. Non. Mais c'est quelque chose de. C'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a. Il y a une personnalité, une grande personnalité qui parle, qui improvise toujours en parlant, et dont la voix ne s'arrête jamais ou la parole ne s'arrête jamais. C'était une chose qui m'impressionnait beaucoup, c'est que on se connaît depuis des années, notamment depuis l'époque où j'étais à Libération, donc depuis 83 quoi, et on se connaît assez pour qu'on se regarde en parlant. J'avais demandé à ne pas être sur le film, mais il me regardait. Et puis il y avait un moment, au bout de 5 minutes, je pensais que voilà. Donc j'ouvrais sur une pause, j'ouvrais la bouche, et à ce moment-là, il repartait. Et quand on laisse les gens reprendre leur souffle et repartir, c'est encore plus extraordinaire ce qui vient après.
Il se passe toujours des choses.
Il se passe des choses.
Oui, c'est vrai. Voilà. Et après des silences. Laisser aussi à celui qui parle. Vous êtes resté longtemps donc sur cette série de rencontres, d'entretiens, de dialogues. Est-ce que après, une fois, parce qu'il a bien fallu que ça se termine, toute cette histoire, même s'il y a eu le prolongement avec le livre, est-ce que dans votre propre travail, le fait d'être passé pour découvrir un auteur par un entretien filmé, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous?
Dans ce cas-là, oui. J'avais, à l'époque où j'étais à Libération, j'ai beaucoup fait d'entretiens, mais c'était des entretiens que j'enregistrais avec un magnétophone, ou souvent même je n'enregistrais pas, je me contentais de prendre des notes, parce que quand on a eu une fois un problème avec un magnétophone, on sait qu'il faut plus s'y fier, donc je préférais prendre des notes, même si j'avais un magnétophone de secours. C'est dans un temps limité, on est avec un écrivain une heure, tandis que quand on est vraiment dans la durée, alors là ça peut être également le cas à la radio. J'avais fait pour France Culture un bon plaisir avec Marguerite Duras, c'était un bon plaisir de 3 heures, ça veut dire qu'on s'est vu pendant des jours. J'ai fait ça également pour Claude Simon, et alors là il y a quelque chose qui se noue, qui se crée, on entre évidemment tout à fait en profondeur dans la démarche de quelqu'un. Et ça, c'est des expériences formidables, qui sont rares, mais qui sont formidables.
Oui. Peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse justement sur ces expériences de son et de radio, puisque aujourd'hui, vous êtes en plein dans cette activité aussi.
Le son, oui, la parole, oui. La parole. Oui, qu'est-ce que vous voulez?
Je me posais cette question parce que il y a un certain nombre de films qui sont présentés depuis plusieurs années où on entend la parole des écrivains sur des images, et j'ai toujours l'impression que finalement le son est très présent, presque plus que l'image. Et je me dis que la radio et le son est finalement un support assez idéal pour entendre et faire passer l'écriture.
Bien sûr, la question, on peut dire que la question, c'est comment filmer un écrivain, parce que ça, c'est... d'une autre façon, je me suis posé la question avec Roland Barthes ou avec Samuel Beckett, c'est comment exposer un écrivain.
Oui. C'est-à-dire montrer comment, des images.
Voilà. Comment exposer quelque chose qui est de l'ordre d'un processus mental, la création, et puis qui est de l'ordre de l'écriture. Mais l'écrivain a rarement une vie romanesque, une espèce de personnalité tellement fracassante qu'elle crèverait l'écran, quoi que ça arrive, bien sûr. Mais enfin, filmer un écrivain, c'est très souvent filmer d'une façon assez bête, adossé à sa bibliothèque.
C'est filmer une posture.
Filmer en train de lire. Alors, je dois dire que même si je suis très, très critique à l'égard de ça, et j'étais extrêmement critique notamment quand il y a eu cette fameuse série sur France 3, Un siècle d'écrivains. Bon, ils étaient programmés le mercredi soir et c'était souvent le jour où j'avais moi des choses au Centre Pompidou, donc je ne pouvais pas les voir régulièrement. Quand par hasard j'étais libre et que c'était par hasard un écrivain qui m'intéressait, j'étais à chaque fois extrêmement déçue. Bon. Mais nous avons travaillé au centre avec une réalisatrice qui s'appelle Pascale Bouénic, qui nous avait proposé une série de films sur les écrivains. Donc on en a fait 8 ou 10, ça s'appelait l'atelier d'écriture. Donc elle a fait des entretiens filmés avec des lectures, etc. Et elle avait commencé avec Dominique Fourcade, il y a eu Bernard Heitzig, il y a eu Jacques Roubaud, il y a eu Cadio. Et l'année dernière, justement, on a eu envie de faire un atelier d'écriture bis de Cadio 10 ans après, ce qu'on a fait. Et c'est tout à fait extraordinaire. Elle arrive, elle a trouvé quelque chose, une sorte de relation, une manière de filmer l'écrivain qui n'est pas bêtement l'écrivain dans sa cuisine, par exemple, parce que justement c'est décalé, ou l'écrivain adossé à sa bibliothèque, ou je me souviens d'un écrivain que je ne nommerai pas, mais le film que j'avais vu sur Arte était consternant parce qu'on le voyait brûler son manuscrit dans sa cheminée, ce que j'avais trouvé d'une lourdeur. Bon. Alors, comment mettre ça en image? Et on se rend compte, bien sûr, que la radio pour ça est très extraordinaire, parce qu'on n'a pas besoin, d'images. Quand je vois un écrivain comme ça adossé à sa bibliothèque, la chose que je regarde, bien sûr, tout le monde regarde ça, quels sont les livres qui sont dans la bibliothèque. Mais je trouve encore plus intéressant que les livres, parce qu'au fond, les livres, on les connaît tous, ça recoupe des choses qu'on a lues, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les petites photographies ou les reproductions de tableaux que l'écrivain a derrière lui. Parce que là, on a, au fond, quelque chose qui est de l'ordre d'un répertoire d'images personnelles ou d'un imaginaire caché. Et ça m'intéresse.
C'est le musée de Malraux.
Oui. Il y a ce livre de Claude Simon qui s'appelle... comment s'appelle-t-il ? Il est publié chez Skira, Orient aveugle, où Claude Simon avait dessiné lui-même son bureau. Et donc le livre s'ouvre avec un dessin du bureau et on voit une coquille Saint-Jacques, un stylo, une feuille de papier, etc. et une reproduction de Piero della Francesca, un personnage de la bataille de Cosroès qui se trouve à Arezzo. Et voilà, on se dit c'est ça qui est intéressant. C'est pas les livres qu'il a derrière lui, c'est l'image qui est en relation avec une œuvre et avec une écriture.
Je crois que c'est le magazine Lire qui, à un moment, faisait des portraits d'écrivains en photographiant les bureaux aussi.
Les bureaux,
une série d'entretiens.
Oui, les bureaux, parce que c'est le rituel, c'est les petites manies, c'est le petit... Bon, un écrivain, il vit dans une maison, bien sûr, mais il vit dans son livre, surtout. Et par extension, il vit dans ce qui est un peu autour de son livre, c'est-à-dire son bureau. Donc, le dispositif est très important, même quand, prenons le cas de Nathalie Sarraute, qui écrivait dans un café, mais c'était un dispositif, un café, surtout que c'était toujours le même. Ou même quand un écrivain vous dit qu'il écrit comme ça sur ses joues dans la cuisine, ça fait rien, c'est un dispositif. Ces rituels-là, qui sont... au fond, c'est la seule chose matérielle de l'écriture, parce que... Bon, moi je vis avec un artiste, je vois bien qu'un artiste, quand il n'est pas directement en train de créer, il a des tas d'activités matérielles. Voilà, ça encadre, ça range, ça bricole, ça assemble, ça nettoie, ça ponce, ça, voilà. Bon, l'écrivain, il n'a rien, Donc peut-être que c'est l'environnement, c'est l'espace mental autour de la feuille et donc de ce qui est en rapport avec la feuille de papier un peu autour, la table, le coin de bibliothèque, l'angle de la fenêtre, ça compte beaucoup.
Inversons peut-être la donne, puisque là vous parlez des images essentielles et vous dites que c'est ça qui est intéressant aussi quand on voit des écrivains et leur environnement, est-ce que dans l'autre sens, vous avez en tête des images dans votre processus d'écriture? Est-ce qu'il y a des images qui surgissent, qui vous aident à avancer ou qui vous retardent peut-être?
Oui, bien sûr. J'ai toujours... je pense que le premier texte que j'ai écrit, il y a très très longtemps, un texte qui n'a jamais été publié, qui ne le sera pas, enfin peu importe, hein, une sorte de matrice du reste, est venu d'une espèce de rencontre avec cette toile de Piero della Francesca, qui est l'archange Saint-Michel, qui se trouve à la National Gallery. Et donc là, il s'est produit quelque chose, ça a été un déclencheur. Bon, voilà, ensuite, le texte se développe, il s'arrête, enfin, peu importe. Mais du coup, s'est instauré quelque chose qui pourrait être, je sais pas, une espèce de règle ou de principe. C'est le besoin d'avoir toujours à portée de main des reproductions de tableaux. Donc j'en ai bien sûr sur les étagères derrière moi, etc., mais j'en ai aussi des piles, j'en achète beaucoup dans les musées, partout où je voyage, et je sais que pour chacun des livres que j'ai écrits, il y avait un certain nombre de tableaux reproduits qui étaient là, qui des tableaux qui ont joué un rôle. On parlait tout à l'heure de cette collaboration que j'ai eue avec cette chorégraphe américaine Susan Burge. Je sais que le premier texte que j'ai fait pour elle, alors des textes qui n'apparaissaient pas, hein, bien évidemment, parce que c'était une période, disons, au milieu des années 80, où il n'était pas question d'introduire sur la scène ou dans une chorégraphie quelque chose comme des mots. Maintenant, ça se fait couramment, mais bon... L'époque, je lui donnais...
Mais ça nourrissait le travail de la chorégraphe.
Voilà, je lui donnais un texte, et donc, qu'est-ce qu'elle en faisait? Donc, c'était tout un problème. Et en fait, elle m'avait demandé, ça a été la première demande, elle voulait danser les danses qu'elle avait honte d'avoir dansées. C'est-à-dire une sorte de travail cathartique, autobiographique. Comment, quand elle était petite, elle avait tout fait, les claquettes, pom-pom girl, enfin bon, une américaine, quoi, les danses folkloriques, etc. Et c'était une sorte de honte absolue, jusqu'à la découverte de la danse contemporaine, avec Nicolaïs, qui avait été son professeur, et elle voulait purger ça. Bon, alors donc, voilà, j'ai fait quelque chose, et je sais qu'il y a eu une sorte de, oui, d'œuvre, il y avait une reproduction qui m'a accompagnée pendant tout le temps, qui était les fragments anatomiques de Géricault, avec des bras et jambes coupés, entrelacés. Voilà, peut-être que j'ai besoin de ça. Je pense que on a tous un cinéma intérieur, bien sûr, quand on écrit, mais...
Oui, parce que là, vous parlez des images
inanimées.
Des images animées,
oui.
Est-ce qu'il y a...
Mais beaucoup
est-ce que
moins.
C'est la même importance moins.
Beaucoup moins, beaucoup moins. Même si, quand on écrit, on voit des choses, on pense à des scènes, et ce ne sont pas des scènes figées, très souvent elles sont en mouvement, mais il n'y a pas de relation, comment dire, génétique avec le cinéma, alors qu'il y en a avec la peinture dans ce que je fais.
Par rapport aux expositions, parce qu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, comment est-ce que c'est arrivé aussi ce travail, l'envie ou peut-être le hasard de travailler...
De faire des expositions.
Faire des expositions sur des auteurs, des écrivains.
Il y avait une tradition au centre qui s'était perdue, au centre Pompidou, qui était, je ne sais pas, il y a eu Kafka, il y a eu Breton, etc. Et cette tradition avait peu à peu disparu, ne serait-ce que parce que le musée avait pris, au fond, la main complètement sur les expositions, et c'était essentiellement une succession de monographies d'artistes. Et à l'époque où Jean-Jacques Ayagon était président du centre en 2000, il a eu envie de sortir un peu de cette routine. Et donc il a imaginé que les différents départements du centre, établissements associés, BPI, IRCAM, moi je n'appartiens pas au musée, mais à un autre département qui s'appelle le département du développement culturel, puisse proposer des expositions. Et donc voilà, on a proposé Roland Barthes, ce qui était une grosse, grosse aventure, parce que je n'avais jamais fait d'exposition, je ne savais pas trop comment faire. Je l'ai fait avec l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui avait le fonds Roland Barthes. Et puis après ça, on avait été tellement, tellement ravis de ce travail qu'on s'est dit, allez, on recommence, et on a fait Beckett. Mais c'était, a priori, ce n'était pas ma mission au centre, ça a pu le devenir. Parce que le centre Pompidou, c'est quand même un lieu ou une institution qui est toujours en pleine effervescence, et où il est très facile de sortir de son rôle. Et de, si on a véritablement envie de faire quelque chose, d'établir une collaboration, d'inventer quelque chose, on peut.
Oui.
C'est une énorme machine, mais bizarrement, alors qu'elle est désordonnée, elle est aussi très, très ouverte. Et on peut faire des propositions, et on peut, on peut innover, ça c'est une chose très satisfaisante au fond, oui.
Ça vous donne des envies supplémentaires ?
Oui, bon, on a toujours des envies, oui.
Ce qu'on ne peut pas dévoiler peut-être encore.
Non.
Je me dis que c'est un lieu aussi où vous pouvez justement peut-être réunir images, sons et textes.
Oui.
C'est un lieu assez privilégié pour ça.
Oui, absolument. Ce qui est surtout, je pense que là où je suis, c'est-à-dire dans à la tête de ce service qui s'appelle les Revues Parlées, qui est un service de programmation orale pluridisciplinaire. Ce qui est très intéressant, c'est pas seulement de programmer des écrivains ou de programmer des philosophes ou de programmer des historiens d'art, mais c'est d'établir des tressages, c'est-à-dire de concevoir un cycle qui va s'appeler le cinéma du philosophe ou l'architecte et le cinéaste ou l'écrivain et l'artiste, et de créer comme ça des espèces de rencontres entre créateurs ou entre disciplines. Alors évidemment, avec maintenant de plus en plus l'apport de l'image. C'est-à-dire que je pense que le vieux principe, qui n'est pas mort, hein, mais qui est très ancien, de la conférence de quelqu'un qui est assis à une table avec un micro et qui parle, bon, ça marche toujours, mais on se dit que quand même, on peut en faire autre chose.
Oui.
Et de plus en plus, on est amené à... Et on voit d'ailleurs que les gens, même des universitaires, si on leur propose une conférence performance, ça les affole un peu, mais s'ils réfléchissent, oui, pourquoi pas.
Et Guillotat, justement, était peut-être précurseur de cette...
Oui.
Alors là, on ne parle pas de conférences, mais de rapport à la littérature beaucoup plus orale, avec toute la poésie orale qu'on peut voir aujourd'hui, les performances
c'est un lecteur immense. Enfin, quand il lit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre lire, mais quand il lit, c'est un événement absolu. Il a travaillé avec un chorégraphe, Bernardo Monte, créé un spectacle qui s'appelait Issé Timocée, où il lisait au milieu des danseurs. Et puis il y a tout son travail théâtral, sa capacité à mettre en scène lui-même des pièces. Moi je l'ai vu mettre en scène cette pièce magnifique qui s'appelait Bivouac, qui était au Théâtre de la Bastille, et apprenant aux comédiens à jouer dans cette langue qui est la sienne.
La langue de la lecture et pas la langue du jeu théâtral.
Oui, et puis il y a cette fabrication d'une langue particulière qui est une langue éminemment poétique et qui est une langue totalement musicale ou musicalisée. Et donc quand il apprend ça à des comédiens et que des comédiens jouent dans cette langue-là, c'est tout à fait extraordinaire.
Pour terminer, est-ce que vous avez eu envie ou est-ce que vous avez des projets de liens peut-être plus directement avec votre propre œuvre au cinéma?
Non.
Non, on n'est pas obligé. Hein.
Non. Je crois que c'est un autre registre. C'est un autre monde. C'est un monde qui me passionne. Mais enfin, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de passage entre les deux.
Peut-être ça viendra.
Ça viendra.
Les passages sont toujours mystérieux.
Voilà.
Merci beaucoup, Marianne Alphand.
Merci à vous.
Bonne fin de festival. Il y a encore quelques films à voir. Et puis
oui.
Les délibérations du jury. Donc bon courage pour tout ça.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.